Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio, pour le 10h midi, ensemble pour commenter l'actualité 0826-300-300. Avec aujourd'hui Perrine Salé, bonjour, vous êtes porte-parole de l'association Femmes des Forces de l'Ordre en Colère. Alexis Poulain, journaliste spécialiste des questions européennes, bonjour.
Bonjour.
Hassan Amour, responsable associatif, vous êtes le fondateur du collectif Marseillais Trop Jeune pour Mourir. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, bonjour Sophie.
Bonjour.
Alors, acte 18, ce samedi dernier, violence sur les Champs-Élysées. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez été choqué par ces images? Au-delà de ça, évidemment, beaucoup de questions. Comment est-ce possible? Comment est-ce que les Champs-Élysées ont pu être saccagés à ce point? Ce matin, Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, a reconnu un dysfonctionnement, des dysfonctionnements, c'est bien le moins. On va évidemment en parler. Le gouvernement donc reconnaît son échec. Qui est responsable? Dans une entreprise, vu pourrait nous le dire, quand il y a un responsable, il est sanctionné. Donc qui est responsable? Le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, le président de la République. Le président de la République qui annonce des mesures fortes pour interdire peut-être les manifestations. Bref, beaucoup de questions. Alexis Poulain. Alors Sophie, vous arrêtez avec votre téléphone?
on est à l'antenne. Déjà, oui, je voulais tweeter qu'on était à l'antenne.
Oui, on est à l'antenne. On nous voit sur le Facebook Live.
Donc, c'est vrai.
Alexis Poulain, vous suivez les manifs chaque samedi. Donc il y a plusieurs points de vue. Il y a des gilets jaunes qui disent aujourd'hui c'est la révolution et la violence est justifiable.
Oui, c'est pas nouveau. Les Black Blocs, ils sont là pour ça. Hein. Ils arrivent, c'est pour tout casser.
Moi, la question. Sauf que les gilets jaunes, on a vu des images de gilets jaunes faisant des haies d'honneur aux Black Blocs.
Poser devant le Fouquet's en feu, enfin en disant voilà, on prend des photos, c'est un moment historique, pourquoi pas. Moi, je condamne les violences. Je pose la question de comment est-ce possible.
Soit vous les condamnez, soit vous les condamnez pas.
Je condamne les violences parce que je pense que c'est pas un outil politique, la violence. C'est un outil effectivement révolutionnaire, mais pas celui de la politique du débat. Mais la question qui se pose, c'est comment est-ce possible que des violences arrivent à l'acte 18, sachant qu'avant, vous avez quand même eu des filtrages sur les Champs-Élysées où on ne pouvait pas rentrer avec un masque en papier ou un gilet jaune, où on empêchait les gens de rentrer avec du sérum physiologique. Et là, vous avez des Black Blocs, pour eux, c'est carte blanche. J'ai l'impression que c'est La République En Marche et le syndicat des commerçants des Champs-Élysées qui vous offrent carte blanche aux Black Blocs pour ce week-end. Donc à un moment, il faut se poser la question de pourquoi il y a eu un tel laxisme dans le maintien de l'ordre. Ouais. Parce que ce n'était pas le cas les actes précédents.
Roselyne nous dit, vous êtes nombreux à regarder vos SMS, ce n'est pas poli, je suis bien d'accord, donc je vous demande de laisser vos téléphones
on va les
de
laisser,
côté.
Mais moi j'allais répondre à Roselyne.
Moi j'ai pas regardé.
C'est une remarque, elle a raison. Qui a mis le feu au Fouquet's, demande Chantal. Valérie nous dit, oui bien évidemment, j'ai été extrêmement choquée des travailleurs bousillant le travail des autres travailleurs. C'est quoi ce mouvement? Je pense qu'après 18 semaines, les gilets jaunes savent ce qu'ils traînent avec eux. Donc Pierre nous dit, si nous aurons une police plus nul que les Black Blocs, il faut changer la police.
Alors d'abord, je pense qu'il y a plusieurs sujets qui sont très graves. Moi, qui ai soutenu Macron, et tout le monde le sait, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je veux dire, là, c'est insupportable. Je ne cautionne plus ce gouvernement. Les fautes politiques ont été gigantesques.
C'est un tremblement de terre,
Sophie. Non, mais ça va revenir. Pour moi, c'est un tremblement de terre. Mais ça va certainement revenir s'ils arrivent à faire face. Mais je pense que les erreurs politiques sont énormes. Énormes. Je suis désolée, je comprends. Emmanuel Macron, je suis la première à reconnaître qu'il est épuisé, qu'il n'arrête pas de bosser, etc. On n'est pas au sport d'hiver. On est chef d'entreprise. On m'avertit qu'il y a un risque de grève dans ma boîte. Je pars au sport d'hiver. Ça n'existe pas. Ouais. Je veux dire, et il a toutes les raisons d'y être. C'est pas le sujet. Donc, on l'a mal conseillé. On aurait dû lui dire, Monsieur le Président, il est hors de question que vous soyez à la montagne. Premier point. Je passe sur le ministre de l'Intérieur le samedi d'avant, qui a le droit de se détendre aussi. Et ensuite, il y a une chose à faire aujourd'hui, c'est immédiatement démissionner le préfet. Il faut une tête.
Le préfet, c'est quand même. Ils ont pas fait tomber la bonne. Ils ont fait tomber. Vous avez vu le responsable de la sécurité parce qu'il avait témoigné lors de l'affaire Benalla.
Il a fait un AVC il y a quelques semaines.
Le préfet de Paris est quand même. Il faut des responsables. C'est inimaginable. Et puis alors c'est très grave. Je ne veux pas croire que nous sommes dans un pays, une grande démocratie, un grand pays, que nous ne soyons pas capables de lutter contre ce type de révolte quand même relativement. délocaliser, bah, ou alors qu'est-ce qu'on devient en période de guerre.
Vous avez les chiffres, vous avez les chiffres. Alors, soi-disant, 32 000 manifestations, 80 000 forces de l'ordre. Bah, faites le calcul.
Non, en fait, il y a un point qui est très important.
Périne Salé.
Les syndicats ont dénoncé justement un dispositif qui n'était pas adapté.
Non, mais il n'y a pas eu d'ordre.
Enfin, c'est juste la faute de tout le monde, sauf des fausses de l'ordre.
Non, mais juste, il y a eu beaucoup de gens qui ont rapporté, et j'ai vu, j'y suis allée, puisque vous nous reprochez de ne pas aller dans les manifs, des gens les bras chargés de choses qui avaient été pillées dans les magasins, devant des CRS. Je suis allée leur dire, mais pourquoi n'intervenez-vous pas ? La réponse, pas d'ordre.
Ouais. Pour les CRS, ils n'ont pas les ordres d'interpeller en tant que tels. Ils vont aider à l'interpellation, mais ils ne vont pas interpeller directement. Donc ce n'est pas leur fonction. Et tant qu'ils n'ont pas l'ordre d'y aller, ils ne bougeront pas. Ils sont là pour sécuriser les CRS. Ça, c'est un point qui est assez important. Le point où moi, j'ai l'impression
qu'il y a... Mais il y a la police aussi à côté des CRS, non ?
Il y a les DAC, il y a les DAR, il y a tout ça qui sont là justement pour interpeller.
Voilà. Les motards
de
la police.
Ce n'est pas pour autant que les CRS vont interpeller les casseurs et les pilleurs. Le point qui est important, je pense, dans ce dysfonctionnement qui s'est passé pour l'acte 18, là, c'est la question de ces 12 compagnies mobilisées en sécurisation de l'Élysée. En plus de ça, on est au courant que le président de la République n'y était pas. Donc, la sécurisation des institutions, elle est valable, effectivement, mais en même temps, il y a aussi tous les autres fonctionnaires qui sont au casse-pipe sur les Champs-Élysées. Et là, c'est problématique.
Ils s'utilisent pas, moi, je suis rue de Varennes à côté, je vois Matignon, la rue est fermée tous les samedis, etc. Franchement, ça n'utilise pas beaucoup de forces de l'ordre.
En fait, là, justement, comme il y avait une menace directe contre l'Élysée, en fait, à la base, ce qui se passait, on a plusieurs manifestations qui sont déclarées avec des groupes qui se forment à côté.
Qu'on écoute Hassan Amou aussi.
Non, mais moi, je rejoins totalement un petit peu l'indignation des images de notre camarade Sophie de Menton, parce que, bon, d'abord, elles sont néfastes pour le gouvernement, clairement. Après, sur la gestion de la crise en tant que telle, on vante souvent le savoir-faire français sur la gestion des manifestations, etc. Alors, soit on tombe dans l'extrême, on a des gens qui perdent des œils et qui donc sont mutilés, ou soit on a l'absence totale de réaction et on a du mal à comprendre comment est-ce que les choses se sont organisées. Aujourd'hui, moi, je crois aussi qu'il va falloir des responsables à la crise qu'on a connue samedi. C'est inacceptable. Et on ne peut pas rester, on peut pas rester comme ça avec des scandales et aucun responsable.
Je mentionne 18. Vous aviez des notes de la sécurité intérieure qui faisaient état de Black Blocs sur les blogs, etc., qui disaient qu'ils allaient monter à Paris, que ce serait un jour noir et que les Champs-Élysées étaient ciblés, les boutiques des Champs-Élysées étaient ciblées, et vous mettez un dispositif pour protéger l'Élysée pendant que monsieur est à la Mongie pour faire du ski.
Alors, il y a deux points qui sont là-dessus. Quand j'entends qu'il n'y a rien qui est fait face aux Black Blocs et face aux personnes qui commettent des exactions lors de ces manifestations, c'est pas vrai, parce qu'à partir de 11h du matin, c'est-à-dire dès 10h, ça commençait déjà à dégénérer sur les Champs-Élysées, dès 11h du matin, on est déjà à 31 interpellations, ce qui est assez important.
Oui, mais les actes précédents, on était à 1500 interpellations.
Alors, pour les actes précédents, il y a un point qui est intéressant là-dessus. Sur ce que vous mentionnez
tout à l'heure,
c'était le filtrage.
Je dis pas que rien n'a été fait, que les moyens organisés n'étaient pas à la hauteur.
Lorsqu'il y avait les premières manifestations et qu'on avait fait un filtre, je crois que c'était sur l'acte 8, si je ne me trompe pas d'acte, il y avait une grande vague de filtrage avec énormément d'interpellations. Beaucoup de personnes qui avaient effectivement des objets pouvant être des armes par destination, des boules de pétanque, etc., qui ont été interpellées. Sauf que ces procédures-là, elles tombent.
Et pourquoi ?
Elles tombent parce qu'on n'arrive pas à caractériser l'intention des personnes à commettre des exactions.
Au-delà des procédures, c'est aussi un problème. Éviter les violences.
Mais éviter les violences quand vous êtes interpellé, vous n'aurez pas de procédure derrière et on va vous dire que vous êtes dans un état répressif.
Une journée noire. Et là, c'est un problème. On met en place un dispositif à la hauteur.
Il y avait 80 000 forces présentes.
Oui, mais il y a un policier qui m'a expliqué.
Comme les actes
nous n'avons pas l'ordre de charger. Ça m'a paru très intéressant. Il m'a dit le principe de charger, ça veut dire qu'ils se mettent tous comme les armées romaines, en fait, avec leurs boucliers devant, ils chargent. Et d'ici, on charge, il y aura environ 80 jambes cassées et 90 bras cassés, peut-être des yeux, etc. C'est pas de la rigolade et on charge. Ou on va au corps à corps. Et donc, ils disent ça, évidemment, ils n'ont pas l'ordre.
Et ils veulent éviter aussi le corps à corps.
Il faut l'éviter, évidemment. Le corps à corps, c'est terrible. Surtout qu'en face, il y a des gens qui ont des couteaux. Donc, je suis incapable, je n'ai pas les éléments pour juger. Effectivement, personne ne donne l'ordre de ce danger potentiel. Mais jusqu'où est-ce qu'on pourra c'est et tout principalement sourire ceux, et attendre.
Ceux qui non, sont les plus les premières victimes de ces violences, ce sont les forces de l'ordre et c'est aussi pour leur sécurité. Soit qu'on leur demande de ne pas charger, soit qu'on les laisse en point entre guillemets fixe et qu'ils ne doivent pas charger et du coup qu'ils se font juste caillasser.
Les voitures de police étaient insupportables. Moi j'ai trouvé que c'était l'État qui était attaqué. La voiture, les deux voitures qui reculent, il y avait une image effroyable de, qui recule devant les manifestants, des voitures et avec un policier dedans, une voiture de police qui est absolument assaillie avec des coups de pied, des coups de poing, etc. Ce n'est pas tolérable.
On a eu
parce
les mêmes images avec le fourgon
de
CRS à Lyon. On avait les mêmes images lors du premier
décembre
où il y avait des voitures brûlées.
Moi, je veux plus d'un gouvernement qui
ne pas mais soit le gouvernement a laissé faire. Et c'est grave, soit il n'a pas laissé faire, et c'est tout aussi grave.
Parce que non, moi, je ne crois pas qu'il ait laissé faire. Moi, je crois que le gouvernement...
Même, la question se pose.
Moi, je pense que vraiment, avec le grand débat, ils ont imaginé, ils ont cru que les choses allaient se calmer. Je pense qu'ils pensaient qu'une majorité des Gilets jaunes n'allaient plus descendre dans la rue. Je crois que le fait qu'il y ait eu un niveau, si vous voulez, de manifestants de Gilets jaunes qui ne sont pas rendus sur les places, a laissé un peu plus de place aux casseurs. Et donc, comme cette masse a diminué, ceux qui sont venus avec l'intention de
Il y a quelque chose de beaucoup plus grave que tout ça, c'est que je vous signale que ce type d'incident, c'est pas tous les samedis, mais extrêmement souvent en banlieue, que c'est le 31 décembre, que c'est certains samedis, que les policiers peuvent plus y aller, que les pompiers n'y vont plus.
Donc,
on l'avait localisé, on fermait les yeux. Il y avait des banlieues. Il y en a qui ont trouvé que c'était pas plus mal d'aller sur les Champs-Élysées. Mais là,
il n'y a aucun, entre guillemets, dans les grosses statistiques, les banlieues sont appelées, on avait discuté précédemment sur ce sujet. Les banlieues sont exemptes de ce mouvement des Gilets jaunes. Il y a un point qui, me semble assez important à souligner, c'est que les Gilets jaunes, dès le début des manifestations, ont tenter un rapprochement et un dialogue avec le gouvernement, l'exécutif. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait Édouard Philippe qui ouvrait les portes de Matignon. Je me souviens d'une phrase assez monumentale qui disait que la porte serait toujours ouverte pour les négociations et pour les discussions. Il y a eu quelques gilets jaunes qui sont allés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été menacés. On a eu d'autres gilets jaunes qui ont voulu s'inscrire dans le débat. Il y a eu d'autres gilets jaunes qui ont décidé de construire des partis politiques pour représenter leur mouvement aux européennes et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont lynchés en place publique, agressés verbalement, etc.
C'est pas une traduction politique, c'est une agrégation de beaucoup de colère qui font que... Non mais il y a un vrai problème, c'est que Emmanuel Macron, grâce à un concours de circonstances, a pu arriver au pouvoir par un hold-up, en disant je vais casser...
Laissez-moi finir.
Mais non mais il le dit, c'est ses mots. Et il casse tout ce qui est les classes intermédiaires, les corps intermédiaires, les partis, les syndicats, en disant ça sert plus à rien, maintenant on va dealer comme ça. La réponse à ça, à ce nouveau monde qui était proposé sur la table de dire on arrête avec les partis, c'est ce truc-là qui s'appelle les Gilets jaunes, qui n'est ni un mouvement, ni un parti, ni ce que vous voulez, qui est une agrégation des colères et qui est une colère contre justement ce système qui est là en disant j'ai été élu, non pas pour un programme, mais parce que c'était contre Marine Le Pen et qui derrière dit le progressisme maintenant c'est la retraite c'est plus tard, il faudra travailler plus, on aura plus de taxes, enfin tout l'inverse de ce qui était promis. Le ras-le-bol, il est à un point tel que les gens sont prêts maintenant à tout casser. Si vous ne voyez pas ça et que vous partez au ski le jour de l'acte 18, vous êtes dans un autre monde.
C'est la photo qui est insupportable. Moi, je me demande qui est-ce qui a pris l'initiative de prendre en photo le président de la République et de la poster sur les réseaux sociaux.
Elle est juste symptomatique d'un monde qui est fini.
Il y a des photos de l'année dernière, attention.
Il y a des photos de l'année dernière, mais il y a une photo où il est en pied, debout avec ses skis au pied. Elle date pas de l'année dernière, celle-là, elle est vraie. Celle où ils sont à table, elle date
Le point qui me sidère le plus là-dessus, c'est que on essaie de critiquer le gouvernement. Moi, je ne suis pas... j'ai aucun but politique, clairement pas.
Il est extrêmement critiquable,
je suis complètement d'accord, et sur les gestions de crise et sur l'administration policière qui est très certainement à mal gérer ou à mal distribuer les ordres. Ils ne sont pas dans les salles de commandement non plus.
Les policiers, ils en pensent quoi là, de ce travail? C'est pas du travail, c'est pas du boulot.
On va y revenir dans un instant. 0826 300 300, appelez-nous, réagissez, on vous attend. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
0826 300 300, on est avec vous jusqu'à midi pour commenter l'actualité. L'actualité, c'est cet acte 18 des Gilets jaunes qui pose évidemment beaucoup de questions. Le gouvernement reconnaît son échec ce matin. C'est ce qu'en tout cas ce qu'a affirmé le secrétaire d'État, Monsieur Nunez, auprès du ministre de l'Intérieur. Ce matin, Frédéric Pechenard, qui est candidat aux élections européennes, affirmait que tous les Gilets jaunes étaient des délinquants, ceux qui étaient sur les Champs-Élysées Champs-Élysées, en tout cas, étaient des émeutiers et des délinquants. Il a appelé à interdire ce genre d'attroupement. Le président de la République, ce matin, doit annoncer des mesures fortes. Alors, on ne sait pas lesquelles. Il serait temps. 18 samedis de suite, n'était-ce pas un peu prévisible? 0826-300-300. Et on a François en ligne avec nous. Bonjour, François.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors d'abord, je voudrais vous préciser que la journée pour moi va être formidable. Je vais sabrer le champagne puisque Madame de Menton semble tourner sa veste. Je la suis activement sur Twitter. Nous sommes vraiment diamétralement opposés, elle et moi. Ouais. Mais là, elle gagne des points dans mon estime. Voilà. Bon.
Donc, je voudrais juste vous interrompre. Ça s'appelle pas tourner sa veste. Ça s'appelle un principe de réalité. Que quand je soutiens quelqu'un, j'ai envie qu'il réussisse. Que là, trop c'est trop, et que ça ne veut pas dire que s'il s'en sort bien, je ne soutiendrai pas ce gouvernement dans 3 mois.
Mais là, aujourd'hui.
Continuez, bon, Sophie, allez. Vous êtes dans le vrai.
Allez. Alors, donc là, François, qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé samedi?
Écoutez, je vais annoncer la couleur. Je suis complètement jeune depuis le 17 novembre avec les premières occupations et blocages dans le pays. Mmh. Donc je suis aide-soignant, je vis dans le sud de la France, je n'y arrive plus du tout, nous sommes absolument déconsidérés. Ce que je voulais dire, c'est que le premier scandale, c'était pas la casse sur les Champs-Élysées, puisque le 1er mai, les Bad Blocs ont œuvré avec la CGT et d'autres, dans d'autres manifestations tout à fait légalement déclarées, et il y a eu de la casse sur BFM en boucle jusqu'à 22h, donc ce n'est pas un phénomène nouveau. Ce gouvernement est totalement irresponsable et n'est pas à sa place. J'ai appris ce matin que M. Nunez est un ancien du ministère des Finances, je ne vois pas ce qu'il fout au ministère de l'Intérieur quant à M. Castaner.
Il a été au ministère de l'Intérieur, il a été au cabinet du préfet, il a été chef de la...
Il connaît pas trop mal son sujet.
Je crois que c'est un de ceux qui connaît...
C'est lui qui tient la maison.
Oui, c'est lui qui tient un peu la maison, c'est vraiment un des plus compétents.
Je retire donc ce que je viens de dire par manque d'information, mauvaise information.
Voilà.
Par contre, en tant que gilet jaune, je voudrais déclarer, mais tout à fait officiellement, que ce gouvernement est totalement novice, incompétent. J'en arrive à regretter Nicolas Sarkozy, pour qui je n'ai pas voté, et les autres. C'est infernal. La France et l'Europe est hallucinée. Madame de Menton a raison, on ne peut pas continuer comme ça. Ce gouvernement est novice. Les provocations s'enchaînent. En 4 mois de conflit, je suis passé à l'extrême droite, à la peste brune, j'ai fait tous les partis politiques alors que je suis apolitique et je vote comme tout le monde, je ne suis encarté avec personne, je suis pacifique et non violent. Mes amis qui manifestent, notamment en moto, puisque je suis motard, tous les samedis dans les villes du sud de la France, nous ne sommes pas des violents. Donc on nous criminalise et je constate qu'il y a beaucoup plus de policiers qui fouillent, comme samedi où des amis étaient à Paris, de province, puisque des bus étaient affrétés. Ils perdent un temps fou à fouiller des gens de 60 ans qui se pointent aux manifestations, des infirmiers en retraite et compagnie, plutôt que les bad blocs qui arrivent à coups de tronçonneuse. Ouais. Donc là, maintenant, ça suffit. Je rejoins Madame de Menton et des millions de Français. Je demande la démission immédiate, sans aucun préavis, de notre ministre de la Justice, Monsieur Castaner.
De l'intérieur.
Je suis assez d'accord avec ce témoignage. Merci, François. Il y a un degré d'incompétence qui est visible. C'est-à-dire que ce gouvernement a atteint un plafond de verre. Il faut un moment qu'ils avouent qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, qu'il y a un amateur énorme, qu'ils n'ont pas l'expérience qui nécessite cette gestion de l'État.
Mais qui aurait eu l'expérience? Je me pose vraiment la question.
On
peut pas dire qu'on a l'habitude de ce genre de manifestation en France et que le mouvement des Gilets jaunes, on l'a connu dans le passé. C'est inouï, c'est exceptionnel.
On remarque bien qu'il y a des manifestations qui se passent excellemment bien. Il y a un climat qui est génial, il ne se passe rien au niveau violence.
Mais justement, c'est bien pour ça que ce gouvernement est incapable et dangereux. C'est la stratégie du pourrissement. C'est d'un côté faire monter Marine Le Pen pour dire c'est moi ou l'extrême droite, et de l'autre côté, c'est dire regardez, tout ce qui est de la grande sociale est... Alors, on va mettre plein d'étiquettes, des fascistes, des antisémites, des xénophobes, des dangereux, des séditieux, des casseurs, des black blocs, au lieu de dire qu'il y a un vrai grave problème dans ce pays, qui est une grogne totale, qui est la montée des inégalités, le fait que les gens disent, mais où est-ce qu'on va? Quel est le plan? Un président de la République, il est là pour donner un cap.
Ça fait qu'il y a une réponse politique qui n'a pas été apportée.
Ni apportée, ni aucune clarification, c'est-à-dire que le cap n'est pas donné. Et qu'est-ce que c'est que ce bordel ambiant? C'est simplement de dire, mais arrêtez ce programme En Marche, personne n'en veut. Arrêtez-le.
Hassen.
Non mais moi je me satisfais même pas de ceux qui pensent qu'ils sont capables de faire mieux que le gouvernement actuel dans la gestion de la crise, parce qu'il y a beaucoup de politiques depuis 24 heures qui sont en train de nous expliquer qu'ils
auraient été
tout
réussi. Voilà. Oui,
en revanche, la crise je suis persuadé comme toi, et j'apporte de l'eau à ton moulin, que si dans les mois qui arrivent le gouvernement n'apporte pas une réponse politique réelle aux Français, eh ben on risque de reconnaître le novembre dernier fois 10 quoi. Donc il va falloir que le gouvernement, cette fois, donne des réponses concrètes à ce que...
Des lois liberticides, c'est pas de ça dont on a besoin.
Moi, j'aimerais bien poser la question de quelle réponse va être posée. Plutôt posée, parce que j'ai l'impression que là, on attend l'aval de la population au moment où on va donner une réponse qui va être plus ou moins acceptée. Il y a déjà eu des réponses politiques qui ont été données, mais justement, elles ont été posées parce qu'elles ont été balayées par les mouvements. Je comprends la grogne et je les soutiens dans la grogne et dans les revendications de base, pas dans les violences, pas dans les démonstrations horribles qui se passent. Et je rejoins complètement l'idée qu'une manifestation, il y en a plein dans Paris, il y en a des centaines par année, elles ne se passent pas forcément négativement.
Il
y a un point que je considère important, c'est quelle va être la réponse donnée. Est-ce que ça va être une réponse politique avec des mesures, un cap donné, ou est-ce que ça va être des réponses sécuritaires? Et je pense que dans les deux cas, aucune réponse ne sera valide et valable pour la population. Si on donne une réponse politique, elle va être balayée.
Donc il n'y a pas de solution, donc on n'en sort pas.
Ma question c'est comment est-ce qu'on en sort? Et j'ai posé la question
on marque une pause, on se retrouve dans un instant, vous aurez la parole au retour.
Dès que j'ai la parole, on marque une pause.
Absolument, j'ai remarqué, il y a comme un truc. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
De retour avec vous jusqu'à midi pour parler de l'acte 18 des Gilets jaunes avec Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique et nouvelle militante de la France insoumise. Hassen Amour, responsable associatif, fondateur du collectif Marseillais Trop Jeune pour Mourir. Alexis Poulain, journaliste, spécialiste des questions européennes. Et Perrine Salé, porte-parole de l'association Femmes des Forces de l'Ordre en Colère. Alors Sophie,
insoumise, je l'ai toujours été, Valérie. Oui. Et je pense que ça peut être une qualité. Il faut être capable de soutenir quand c'est bien, de changer d'avis, de revenir, de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on doit être dans un camp ou dans un autre. Je ne suis pas dans un camp ou dans un autre. Et ce que je voulais dire, alors en revanche, sur cette manifestation, c'est qu'elle n'est pas prête de s'arrêter. Pourquoi elle n'est pas prête de s'arrêter? Parce que ce fameux grand débat, où il y a eu un numéro d'artiste sur les planches qu'on peut saluer, le président de la République, il a été un numéro d'artiste qui lui a fait prendre 8 points. Mais les solutions qui sont données... Parce que, en fait, n'oublions pas, c'est une révolte fiscale et économique, et on l'a entendu, c'est épouvantable, des aides-soignants qui ne peuvent pas vivre, etc. Voilà. On était tous d'accord au début.
Mais on est toujours tous d'accord. Il y a encore un soutien très fort
là,
à ce
moment. Sauf que, dans ce débat, tout ce qui est ressorti, et je suis désolée de le dire, ce sont des solutions qui sont économiquement néfastes à court et moyen terme. C'est-à-dire qu'on veut plus de dépenses publiques. On veut plus d'impôts sur les riches qu'on va faire se barrer. C'est nous, les entreprises, qui allons trinquer alors qu'elles ne sont pas dans le débat.
On n'a pas encore les conclusions. Mais
le sait. Ils veulent tous le retour de l'ISF. C'est un cas de...
Mais ce n'est pas fait.
Non, mais on va dire non, donc ils vont être foudrage.
Mais de
non,
toute façon, peu importe ce qui va sortir de ce grand débat. Moi, je pense que là où c'est vraiment choquant, c'est la déconnexion de ce gouvernement qui pense qu'il va s'en sortir avec ce truc qu'est le grand débat, qui était une campagne déguisée pour les européennes en disant regardez, on a un plan, on va vous faire des trucs.
C'est bidon.
Et les gens l'ont vu, et vous regardez, Libé a sorti un article de qui a participé, c'est à peu près les militants en marche, des retraités, propriétaires.
Donc
c'était un débat qui parlait aux gens les mêmes.
Et
les chiffres sont parlants aussi. Il n'y a pas eu énormément de participation. Alors il y a eu un peu de débat, il y a eu des vrais débats où le président n'était pas là, il n'y avait pas de caméra, où les gens ont parlé, et heureusement, et tant mieux, et c'est ça la démocratie. Mais le problème de ce grand débat, c'est que c'est un truc, ça se voit, et peu importe ce qui va en sortir. Je veux dire que là, c'est grillé pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il va faire un discours...
Il va être obligé de dissoudre l'Assemblée et de changer de gouvernement.
À un moment, il va falloir se poser la question sérieuse.
Ce matin, François Bayrou qui a commencé à dire qu'il faut changer radicalement de gouvernance.
Bayrou, je ne suis pas sûre qu'il
y ait un changement radical.
Mais la question est là. C'est-à-dire que la 5e République est en train de crever devant nos yeux. Il va falloir effectivement dire est-ce qu'on fait une 6e République ? Est-ce que c'est pas les institutions qui vont faire que...
Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que si moi je ne comprends pas, il n'y a pas de raison que tes auditeurs comprennent. Ça veut dire quoi, la 5e République est foutue, faut une 6e?
Alors, je vais expliquer. La 5e, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir un président qui a autant de pouvoir quand il se trompe. Regardez où on en est. Les contre-pouvoirs, c'est le Sénat. Ils convoquent d'ailleurs M. Castaner et M. Le Maire pour en parler.
Mois,
non, non, mais attendez. Et on dit, attendez, le Sénat est aux ordres, il fait une politique de politicienne. Vous avez. Le problème, c'est. Quand on avait encore le Sénat, ça pouvait marcher.
Non. Trop de pouvoir au président de la République, bien alors sûr. On fait quoi?
Eh bien, il va falloir qu'il y ait. Remettre du débat dans les instances. Il faut que les partis reprennent vie. Ça ne peut pas continuer comme ça, avec un centre qui n'existe pas, où on va mettre tout le monde aux extrêmes en disant c'est comme ça ou pas autrement.
Il n'y a pas d'opposition.
Il y a une opposition, sauf qu'elle ne peut pas s'exprimer. Donc il faut qu'il y ait un moyen.
Elle ne peut pas s'exprimer. Ils sont incapables de s'exprimer.
Dans les lois,
ils n'ont pas d'idée.
Regardez, le vrai problème, c'est qu'on a privatisé ADP, Engie et la Française des Jeux à 6 h du mat à l'Assemblée. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette privatisation?
Oui.
Vous peut-être.
Oui.
Bon, bah, je pense qu'il y a une majorité de Français qui n'est pas du tout d'accord.
Oui, mais la majorité
qu'il
n'y a de Français, aucune raison de privatiser. Alors,
attendez, on va prendre les appels. On a Louis en
voilà.
ligne avec nous.
Donc c'est pas
Eric,
faire
pardon.
Ça.
On a Eric en ligne.
Oui, bonjour.
Bonjour Eric, on vous écoute.
Oui, d'abord, par rapport à l'acte aux violences, ce que je trouve quand même étonnant, c'est que c'était annoncé partout dans la presse que c'était une manifestation qui allait être très importante et présentée par les Gilets jaunes. Que je soutiens comme étant décisif.
Quel gilet jaune soutenez-vous ?
Hein ?
Quel gilet jaune soutenez-vous ?
Ah mais pour moi les
globalement.
Casseurs. Pardon n'ont rien à voir avec les gilets jaunes.
Mais ceux qui étaient sur les Champs-Élysées.
Qui se font en brigadés, mais bon, je voudrais pas vous dire, mais comme dans tout mouvement populaire, il arrive ce genre de choses. Mais par contre, les casseurs, pour moi, ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes. Pour moi, personnellement, ce que je trouve étonnant, c'est que pour un acte qui était annoncé comme avec une mobilisation importante, attendez, regardez, les Champs-Élysées étaient pleins, une mobilisation importante plus par les gilets jaunes comme un acte décisif, qu'est-ce qu'on voit arriver en masse? Les casseurs. Excusez-moi, et sans parler aussi de la présence des CRS sur les champs qui, mais attendez, vous voyez les actes précédents, vous aviez les CRS qui cadenassaient tout le cortège des manifestations, on voit les images, vous avez les CRS qui sont le long des gilets jaunes, et là qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi quelques CRS, hein, ils étaient présents, ça c'est sûr, mais il y a que quelques CRS, il y a de la casse partout. Alors évidemment, ce que je trouve marrant, c'est quand même ça sert bien le pouvoir en place, parce qu'il faut pas se faire d'illusions, hein. Le politique aujourd'hui ne tient plus rien du tout. Il n'a plus aucune mainmise sur la politique rien que de l'État français, étant donné que, bon, je vais me répéter, mais tout vient de l'Union européenne, et comme l'Union européenne est tenue par les grandes multinationales, vous avez vu les dernières...
Heureusement qu'on les a, les multinationales, faut arrêter de tomber sur les multinationales, c'est des boîtes qui sont dans le monde entier. Non mais c'est vrai, je comprends bien, elles symbolisent l'économie qui marche. On peut pas sans arrêt tirer sur les multinationales. Quand vous avez LVMH dans le monde entier qui fait travailler des millions de gens. Voilà. Non, on peut pas faire ça.
Mais alors, vous dites, Eric, que vous soutenez les gilets jaunes, que vous les soutenez, et vous étiez choqué ou pas par les violences?
Les violences, attendez, moi, franchement, en dehors du fait que ça sert juste pour discréditer ce mouvement, je n'accepte en aucun cas.
Beaucoup posent la question de savoir pourquoi pourquoi les gilets jaunes ne sont pas partis, se sont pas désolidarisés, plutôt que d'aller faire des photos, de revendiquer finalement. Le saccage.
Allô ?
Oui.
Oui, excusez-moi. Non, par rapport à ce que disait la LVMH qui embauche des millions et des millions de personnes, oui, les multinationales ont énormément de personnes, mais il faut savoir que de plus en plus, étant donné que l'économie est avant tout financiarisée, de plus en plus, en fait, on s'aperçoit que, pour ces très très grosses sociétés mondiales, c'est-à-dire qui sont présentes partout et à la fois nulle part, donc elles sont au-dessus des États et au-dessus des lois, ces sociétés-là considèrent de plus en plus l'État, comme des gènes, et les humains aussi comme des gènes, parce que ce sont des personnes qui limitent, c'est-à-dire que ce mouvement des gilets jaunes, c'est directement en lien à ça. Le pouvoir actuellement ne comprend pas ce mouvement. Pourquoi ? Parce que c'est un mouvement qui n'accepte plus la réalité d'aujourd'hui, qui n'accepte plus ce monde qui en fait
compte. S'il n'accepte plus l'économie de marché, effectivement,
Déjà, Perrine voulait intervenir. Perrine,
oui, moi je voulais intervenir sur la question des forces de l'ordre et de la question du maintien de l'ordre en tant que tel. Y a un point qui peut paraître incompréhensible pour les citoyens concernant ces manifestations. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a plusieurs cortèges, et en plus pas des cortèges, de rassemblement déclaré. Donc effectivement, on ne peut pas avoir des CRS tout le long du cortège comme il devrait se passer lors d'une manifestation. On va avoir un déplacement. Là, en fait, on a plusieurs petits groupes qui ont déclaré 4 manifestations de gilets jaunes en plus des manifestations annexes. On avait notamment la marche pour le climat, 36 000 personnes, c'est assez considérable. Donc effectivement, il faut des forces mobilisées pour sécuriser toutes les manifestations. C'est ce qui se passe quand on a une déclaration. Que la manifestation se passe, c'est très bien en tant que tel. Le problème, c'est qu'il y a des casseurs qui arrivent. On a 4 groupes, 4 déclarations qui se passent avec des personnes qui bougent, des personnes qui n'ont pas déclaré de déplacement, des personnes qui viennent en attroupement, et même en plus des attroupements sauvages, c'est-à-dire non déclarés en préfecture, qui vont rejoindre les Champs-Élysées. Donc effectivement, les Champs-Élysées sont noirs, entre grosses guillemets, je tiens à le signaler, on n'en est pas aux mobilisations des premières manifestations des Gilets jaunes, mais effectivement, il y a une difficulté pour les forces de l'ordre de venir sécuriser des manifestations déclarées partiellement ou avec des attroupements sauvages. Donc effectivement, il n'y a pas l'attitude possible pour les CRS de sécuriser convenablement. Et un autre point, on en est à 4 mois de mobilisation. Effectivement, on attend des réponses. Mais vous imaginez un petit peu ce que c'est pour les forces de l'ordre que d'être tous les samedis mobilisés à quasiment 100% des effectifs, à quasiment 100%. Ouais, ouais. C'est 80 000 forces qui sont non-stop déployées, minimum chaque samedi sur les manifestations. Ouais. On se plaint, nous, famille, d'avoir un week-end sur 6 en famille avec notre compagnon ou notre compagne qui porte un uniforme. Et là, même nos pauvres petits week-ends 1 sur 6 n'existent plus. Sans moyens matériels pour se défendre, pour se sécuriser.
Mais qu'est-ce qu'ils pensent, les policiers les forces de l'ordre, elles pensent quoi par rapport à ce que vous dites? C'est vrai, mais elles finissent par... Elles doutent, elles pensent qu'elles doivent avoir la solution, elles, non?
Les forces de l'ordre, honnêtement, et pour en côtoyer beaucoup, pour être compagne de policiers, il y a un point qui est totalement significatif, c'est qu'on différencie totalement les revendications des mouvements violents qui peuvent se produire au sein des manifestations gilets jaunes. Le point qui est important, c'est que, évidemment, que vos forces de l'ordre, elles n'en peuvent plus. Vos forces de l'ordre, elles sont épuisées. Elles n'ont pas de moyens matériels, ni financiers, ni humains pour vous sécuriser. Qu'est-ce qui se passe? C'est de l'épuisement, c'est de la désillusion totale. Et on a 19 suicides dans la police nationale cette année. C'est quand même impressionnant.
Mais c'est quoi? Est-ce que c'est un problème de commandement? Est-ce que c'est un problème? C'est quoi le problème aujourd'hui?
Il y a un problème de commandement, mais aussi un problème de discussion politique qui est significatif. En fait, sécuriser une manifestation, si tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Ça se passe à tous les jours dans Paris, ça se passe à tous les jours dans les villes de France. C'est pas un problème en tant que tel. Le maintien de l'ordre, les CRS, les gendarmes mobiles en font à tous les jours. C'est leur métier de base, c'est leur spécialisation. C'est pas un problème de sécuriser des manifestations. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on a des mobilisations en très grand nombre, avec des personnes qui viennent chaque samedi pour revendiquer des choses totalement légitimes, certes, c'est très bien, mais c'est devenu un jeu pour les personnes qui ont décidé de venir détruire non seulement les revendications,
mais les images de l'État.
C'est ça que je ne comprends pas, parce que ces personnes, ces black blocs, certains sont identifiés. Enfin, il y a un travail d'intelligence, il y a un travail de la sécurité intérieure qui fait qu'on pourrait éviter. Justement,
on a eu des histoires. De renseignement, ils n'arrivent pas à communiquer ensemble.
Mais voilà le problème. Donc, déjà, le renseignement va mal. Vous avez eu des descentes de police où les mecs allaient chercher des gilets jaunes, soi-disant, parce que c'était dangereux de ce côté-là. Et vous avez tous les Black Blocs qui s'organisent et les mecs arrivent aux Champs-Élysées avec des head-honneurs quasiment.
Alors, aujourd'hui, ce qui se passe avec les Black Blocs, il y a des personnes qui viennent grimées, déguisées, ils viennent comme un manifestant lambda, il n'y a pas de souci. Ils arrivent sur les lieux, ils récupèrent parce qu'ils avaient entreposé la veille, etc.
Il y a beaucoup de choses qui ont été entreposées.
Qui n'a pas été déterminée. Aujourd'hui, ce qui s'est passé.
Mais moi, j'ai vu un type se balader avec un moteur de tronçonneuse à la main dans la rue, défiler aux Champs-Élysées.
Ils avaient des outils pour casser les vitrines.
Est-ce que vous avez envie, en tant que force, face à un mec, en face de vous, qui a une tronçonneuse, et vous allez aller l'interpeller tout seul comme un super-héros, je préfère que mon mari reste de mon côté,
je comprends tout à fait les policiers, mais posez le casque, donnez-le à Christophe Castaner, donnez-lui une matraque, un bouclier, et vas-y Christophe, on te regarde, qui saute au sol, n'est pas mis de l'intérieur.
Qu'est-ce qui se passe quand il y a un incendie?
Non mais faut arrêter de les envoyer au casque comme ça.
Qu'est-ce qui se passe quand il y a un incendie fait par les Black Blocs? On a des policiers qui montent dans les étages sans avoir de protection unifiée et qui viennent sauver la population, qui les descendent et qui vomissent toutes leurs tripes avant avant de s'effondrer parce qu'ils sont intoxiqués au monoxyde de carbone, la volonté des forces de l'ordre.
Il y a tout. Hein.
Non, mais là, c'est
pas une intoxication à lacrymogène.
Oui, ils en mangent tous les jours dans leurs entraînements. Il faut responsabiliser cette partie des gilets jaunes qui, eux, ont.
Juste une chose, non, il n'y avait pas de lame à la tronçonneuse, c'était juste pour faire du bruit, oui, sauf que.
Pardon. Non, effectivement, les barres de fer, c'est pas fait pour faire mal. Effectivement, les barres de fer, les bouts de pétanque,
ils ont acheté des pavés.
Ils n'avaient pas dû acheter plus de flacons.
Est-ce que Hassan peut parler?
Non, voilà, je pense qu'au-delà de l'organisation politique des choses, etc., comme le soulignait Alexis Poulain, je pense qu'il faut une autorité forte. Parce que je ne suis pas sûr qu'en changeant même le système politique, etc., ceux qui se sont autorisés à casser, ceux qui se sont autorisés à semer la panique dans le centre-ville de Paris, se disent que demain, ben, puisque les choses ont changé, ben, on va se calmer. Oui, non, mais... Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas que non plus tout ça se diffuse largement dans les pratiques courantes et que ça devienne monnaie courante dans les prochaines manifestations.
Ce n'est pas ça.
C'est-à-dire que le degré de violence, il a tellement augmenté que ça peut servir d'exemple. Après, demain, je dis une bêtise pour les cheminots ou pour d'autres organisations de manifestations. Voilà, c'est très important. Qu'il y ait une réponse politique.
Et après,
juste ce qui est important de dire sur les gilets jaunes,
les gilets jaunes aujourd'hui
qui sont encore dans les manifestations, et moi j'ai eu l'occasion d'en discuter avec certains d'entre eux, ils sont parce qu'ils se disent, on a eu le grand débat, il y a une partie des gilets jaunes qui sont restés à la maison ou qui sont allés dans les réunions organisées par le gouvernement, et il y en a d'autres qui disent, non mais nous on reste dans la rue parce qu'on ne veut pas donner un blanc-seing au gouvernement, et se dire etc. Mais ceux-là doivent se dire qu'aujourd'hui, eh ben, ils sont complices de tout ceux qui sont dans la rue en train de cacher, mais faire ce qu'ils sont en train de faire.
Défendre un black bloc avait été arrêté. Ils ont été le libérer, les gilets jaunes.
Et au moment où on a un commissaire qui se prend un coup de pied dans la figure à l'acte 13 des gilets jaunes, qu'est-ce qui se passe? Le policier va vers la personne qui vient de le frapper au visage, alors qu'il est en pleine discussion pour calmer la manifestation, essayer de vérifier le cortège, etc. Qu'est-ce qui se passe? Les gilets jaunes bloquent le commissaire qui vient de se prendre un coup. Il y a un problème quand même là-dessus. Et effectivement, je pense qu'il y a une espèce de complicité passive, parce que effectivement, ce ne sont pas eux qui vont apposer les coups, mais ce sont eux qui applaudissent les blablabla.
Je voulais juste dire une chose. J'ai observé, je vais employer un mot fort, peut-être un petit peu de lâcheté de la part de certains politiques qui se gargarisaient d'être dans les manifestations du début et qui, quand les choses commencent à monter en violence, ils apparaissent plus, ils étaient tous à la marche du climat.
Laurent Wauquiez qui n'a jamais porté de gilet,
il n'y a personne pour venir soit dénoncer, soit prendre la parole. Et là, aujourd'hui, c'est un petit peu trop facile de venir en comptant et en faisant le bilan, dire celui-là, il doit partir, celui-là, il doit rester. Là, c'est un scandale.
Moi, je pense que
tout le monde doit être responsable, mais la classe politique entière.
Sur l'autorité, parce que c'est important, je pense que l'autorité, elle naît du respect, mais du respect mutuel qu'on peut avoir. Elle naîtra pas de la force. Et c'est bien le problème. Il faut qu'Emmanuel Macron comprenne que son autorité ne viendra pas de mesures liberticides ou de davantage de ses restes dans les rues. C'est du respect qui est attendu par le peuple français.
Quelle sera la réponse? Est-ce que c'est une réponse sécuritaire? Elle sera balayée et il y aura une...
C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Attendez, les gens qui veulent s'insurger. C'est une réponse sécuritaire minimale quand même.
Bien sûr. Mais on est tous d'accord pour dire qu'il faut de l'ordre dans une société.
Bien sûr.
On est tous d'accord pour se dire ça.
Pas tous, hein.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Certains nous disent qu'on aurait dû inviter des gilets jaunes histoire d'avoir un autre point de vue. On en invite souvent sur Sud Radio. Et Alexis Poulain est gilet jaune.
Je crois qu'il faut clairement rétablir un équilibre.
Ils veulent une table ronde de casseurs.
Être gilet jaune, c'est pas être la malhonnêteté intellectuelle et cautionner toutes les violences dans la rue. Voilà, il faut un juste milieu. On est juste simplement dans l'honnêteté intellectuelle et je pense que voilà, on est capable de reconnaître quand les gilets jaunes se tiennent correctement et quand certaines personnes cautionnent les violences dans la rue.
On a Eric qui attend depuis un moment. Eric de Béziers. Bonjour Eric.
Oui, bonjour Sud Radio.
Bonjour, on vous écoute.
Voilà, moi je vous appelle justement pour témoigner.
Oui.
J'étais sur les Champs-Élysées samedi. Mais déjà, je vais me présenter comme ça, comme à chaque fois vous présentez, vous vouliez des gilets jaunes, je vais me présenter. Voilà, Eric de Béziers, là je vous appelle du travail, je suis électricien, père de famille, deux enfants, marié, ma femme travaille dans la fonction publique. Voilà. Nous avons décidé de monter à Paris pour soutenir le mouvement des Gilets jaunes que nous soutenons depuis le début. Arrivé sur les Champs-Élysées, arrivé à Paris, on ne connaît pas Paris, on est un petit terroir. On a voulu rejoindre les Champs-Élysées. On arrivait à la gare Saint-Lazare, et là, en marchant, ne connaissant pas Paris, on s'est retrouvé sur quasiment beaucoup de routes, de rues fermées par les CRS, totalement barricadées, avec des CRS en armes réelles, je dis bien des armes réelles, avec des mitraillettes, oui, tout à fait, pour sécuriser ce quartier. On a décidé, on a suivi quelques Parisiens, des gens très sympathiques, qui nous ont guidés, avec nos gilets jaunes, je dis bien, qui nous ont guidés sur les Champs-Élysées. Arrivés sur les Champs-Élysées, nous étions un petit groupe de 10 personnes, dizaines de Biterrois, à peu près du même cursus, du même âge, pacifistes. Nous avions un drapeau de notre région, de l'Occitanie. Donc de là, des liens ont commencé. C'était une bonne ambiance. Mmh. Il y avait des milliers de personnes. Il n'y avait pas 8000 personnes. Il y en avait peut-être 10 fois plus, dans une excellente ambiance. On a croisé d'autres Occitans, on a rigolé, on a discuté. Tout se passait très bien. On a vu ce monsieur passer avec sa tronçonneuse sans lame. Oui. Voilà, sans lame, juste devant moi. En fait, il représentait les bûcherons de l'Aveyron. Certes, c'était peut-être
avec
pas une bonne
un
idée.
Avec un masque, évidemment.
Non, sans masque. Non, bah, il n'avait pas de masque, madame, j'y étais.
Ah,
je ne suis pas contre la police. D'accord. Je ne suis pas contre la police.
Non, non, mais ce que vous dites, le problème, c'est que personne ne fait d'amalgame, madame. Et voilà. Vous avez raison. Vous avez raison.
J'ai servi la France pendant 5 ans au sein des troupes de marine au 21e RIMA. Donc tout ce qui est armes et compagnie, je sais de quoi je peux vous dire. Je peux même vous envoyer mon CV si vous voulez. Ouais. De là, j'étais avec ma femme. Nous étions dans une excellente ambiance. Nous avons commencé à remonter vers la place de l'Étoile, où là, une vingtaine de personnes, pas Black Bloc, hein, des personnes qui s'en prenaient à la police, je ne peux pas les décrire, mais ce n'était pas des Black Blocs. Donc nous avons décidé de redescendre au niveau du Lido. Je vous dis les mots parce que je ne connais pas.
Ouais.
Et là, il y a eu un gazage massif. Quand je vous dis un gazage massif, moi et ma femme, pacifistes, et mes amis, nous nous sommes retrouvés par terre à vomir, entièrement gazés. Étant pacifiste, étant très inquiet pour ma femme, nous avons décidé de prendre une petite rue et de rejoindre la marche du climat. Mmh. On s'est retrouvé dans une rue, là où justement il y a eu un immeuble qui a brûlé, où il y avait des gens, je suis totalement contre, attention. Dans cette rue, on arrive au bout de la rue, barrage de police, madame. Barrage de police, grenades, jet de grenades lacrymogènes, on fait demi-tour, on part de l'autre côté.
Il n'y a pas un seul policier, mais vous avez des grenades lacrymogènes, il faudrait à un moment donné avoir une certaine cohérence dans le discours.
Mais vous voulez, Eric, il y a effectivement, évidemment, une très grande majorité de gilets jaunes qui sont pacifistes comme vous, qui sont là, c'est pas du tout...
aujourd'hui, est-ce que ce monsieur, il est conscient que le niveau de violence et que dans ces manifestations aujourd'hui, de par sa présence, moi j'entends bien, il est de bonne foi, il est pacifiste, il a des vrais arguments, etc. Mais en venant, en sachant ce qui se passe depuis ces derniers samedis, voilà,
il fait un truc interdit.
D'une certaine manière, il cautionne la violence sans le vouloir, de par sa présence, parce que ce ne sont plus les manifestations des gilets jaunes du départ.
Et puis il y a quand même quelque chose
qui... Il est toujours là, Eric.
Ça n'a plus d'importance, oui, il doit être là, Eric, mais ça n'a plus d'importance maintenant de le dire, mais enfin, la manifestation n'est pas autorisée, et les Champs-Élysées, on n'a pas le droit d'y aller.
Je voulais juste en terminer.
Bon, bref. Après, il y a eu un mot qui a couru à partir de midi, comme quoi M. Castaner annonçait qu'il ne se passait strictement rien sur les Champs-Élysées et que nous étions que 8000. Et là, si vous voulez, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai eu cette impression. Pas contre la police, loin de là, ils font leur travail, ne croyez pas, les gilets jaunes. J'ai eu l'impression. Et à 14h, quand les Black Blocs arrivaient, tout ça, je peux vous le raconter si vous voulez. J'ai eu l'impression que tout avait été mis en place pour laisser les casseurs sur les Champs-Élysées et qu'il y ait de la casse. J'ai eu cette impression.
C'est ce que tout le monde dit.
C'est ce que disent les syndicats de police.
Mentionnent que les forces n'étaient pas forcément réparties comme il aurait fallu qu'elles le soient.
Et que
ça, c'est le point le plus important. Après, aller sur le côté théorie complotiste, de dire.
On est en droit de poser la question.
Non, mais on est en droit de poser la question. On a du mal à comprendre quand même que les Black Blocs aient pu casser de cette façon-là.
On n'a pas envie que ces concitoyens finissent flambés dans leur habitation au-dessus d'une banque.
Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Certains posent la question,
enfin,
encore une fois.
Je ne crois pas au complotisme, mais j'ai du mal à comprendre quand même que les Black Box, ils se repèrent et qu'il n'y ait pas une stratégie.
Pas forcément. Justement, ils ont développé une nouvelle stratégie.
Le point qui est assez important,
c'est qu'effectivement, il y a des services de renseignement. Effectivement, on sait qu'il y a des Black Box qui vont venir. Effectivement, on a des forces qui sont mandaté entre guillemets,
les Champs-Élysées sont la seule responsabilité d'avoir ça.
Tout à fait, sauf que quand vous arrivez en habit tous les jours avec un gilet jaune et que vous venez sans forcément avoir quoi que ce soit de représentatif de votre groupuscule, entre guillemets, d'ultra-violent, vous allez passer. Et c'est tout à fait normal.
Ils ont des casques en principe, les
Black
Box.
Mais pas forcément, parce que justement, ils les déposent en amont ou alors ils s'équipent aussi.
Ils n'ont pas planqué des casques, des machins la veille. Enfin, c'est dingue.
Et quand vous avez des personnes qui arrivent avec des meuleuses pour découper du matériel urbain,
il y a un problème sur les Champs-Élysées. La veille, il n'y a pas des brigades qui passent pour récupérer tout le merdier la veille? Ça leur vient pas à l'idée à un moment?
Imagine le travail que c'est. Déjà que.
On écoute un autre auditeur. On a Renaud en ligne avec nous. On va écouter Renaud, on va écouter nos auditeurs aussi, vous êtes nombreux à réagir. Renaud ?
Oui, bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Je vais faire vite parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Moi, je pense qu'honnêtement, nos hauts élus, pour ne pas les nommer, Macron, Castaner et compagnie, savent très bien ce qu'ils font. Je sais très bien qu'en disant ça, je vais m'attirer les foudres. Ils savent très bien ce qu'ils font, Macron et compagnie. À partir du moment
ils ne le savent pas et c'est tout aussi grave.
Je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Parce que quand je vois les tweets de notre président, je vais juste vous citer la fin du tweet qu'il a fait samedi soir. Tous ceux qui étaient là se sont rendus complices. Je suis désolé, non. C'est pas parce qu'on est présent que forcément on est complice. Moi, je suis gilet jaune, même si je ne manifeste plus ces derniers temps. Moi, quand je vois ce genre de tweet, que je vois des propos de Castaner qui réaffirment que chaque manifestant mutilé l'a été dans le plus strict respect des droits de l'homme, je suis désolé, là, moi, je crie au scandale, je suis désolé. Déjà, il y a un énorme scandale par rapport au LDB. Ne serait-ce que pour revenir au Fouquet, moi, j'ai vu des vidéos qui ne sont pas des montages, par rapport à l'incendie du Fouquet, où ce sont des tirs lacrymogènes.
C'était des feux de Bengale,
Moi j'ai vu sur Twitter des vidéos qui ne sont pas des montages. Je suis désolé, je vous le dis.
Ça a été checké et il se trouve que c'est pas les gaz lacrymogènes comme il fait au Fouquet.
Je dis pas que c'est ça, mais ça en fait partie. Il y a eu ça aussi. Voilà. Il y a un moment donné, à partir du moment où les Champs-Élysées sont interdits à la manifestation, je suis désolé, on bloque cette avenue-là de manière à ce que personne ne connaisse.
Et deux secondes après, vous allez crier à l'impossibilité et aux libertés.
Il nous reste après une minute, donc le gouvernement doit annoncer dans les minutes qui viennent des nouvelles mesures sécuritaires.
C'est bidon. Non mais du coup ça renforce la théorie du complot de dire ils ont laissé pourrir la situation pour installer un gouvernement autoritaire parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autrement. Mais c'est comme sur la loi Fectus. Enfin, faut se poser la question de pourquoi on en arrive là.
Je suis pas sûr. Voilà, je suis pas dans l'idée que ce gouvernement l'a fait exprès, etc. Je pense qu'il y a un caractère exceptionnel des manifestations. En revanche, moi je dénonce un peu la facilité de propos d'un certain nombre de gilets jaunes qui se rendent pas compte qu'il y a une dame qui est descendue avec son gosse dans les bras parce qu'on a mis le feu à son immeuble et qu'ils ne veulent pas comprendre et pas savoir, ils font esprit de ne pas savoir que le samedi est devenu le rendez-vous des casseurs. Voilà, moi je ne suis pas tout noir ou tout blanc, mais je dis, à un moment donné, il va falloir aussi qu'on se réorganise la chose et que ce mouvement-là mute vers quelque chose de moins violent, de plus, ou d'ailleurs ils vont retrouver de la crédibilité, ils vont retrouver de l'amour dans l'opinion auprès des Français, parce que là aujourd'hui, personne et plus personne ne peut cautionner ce qui est en train de se passer dans la rue, c'est juste inadmissible. Et voilà, il faut le dire, avec force et pas essayer de faire de la politique autour de sujets aussi importants.
On n'est plus à l'heure
de la politique. Merci à tous les quatre, merci à vous. Vous avez été très nombreux à nous suivre et à suivre André Bercoff, qui, je n'en doute pas, va continuer à parler des Gilets jaunes. À demain.